Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du lundi, le bistrot du vélo, rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la petite reine. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le menu du jour, un menu disparate, soca, épices saladières, l'accent du sud, la galette saucisse, plutôt du côté de la Bretagne, et puis un petit café gourmand en dessert. Quoi de mieux pour démarrer ce bistrot du vélo? Notre invité, il est breton, il est minissois, il appartient à la formation CIC Unant Atlantique. C'est Maël Guégan, le roi des échappés, qui est dans notre compagnie. Salut Maël, comment ça va?
Salut à tous, bah écoute, ça va super. Un grand merci de me recevoir dans l'émission Bistrot Vélo, que j'apprécie particulièrement.
Merci à toi. Maël, tu es où là, puisqu'on t'a vu, nous, à la télévision, un petit peu plus tôt sur Eurosport, sur le Tour de l'Ain, sur la première étape?
Là, je viens de rentrer à l'hôtel, je viens de finir le massage, et puis voilà, un peu de repos pour la soirée, là, jusqu'à l'étape de demain.
Raconte-nous justement cette première étape qui s'est terminée au sprint avec la victoire de Jake Stewart, le Britannique, et une très, très belle deuxième place pour Emmanuel Morin. On voit ici les images pour la formation CIC Unant Atlantique devant Nasser Bouhanni.
Bah ouais, ça tombe bien que je sois l'invité aujourd'hui, parce que une très belle performance de l'équipe, ça fait plaisir. On n'a pas couru du mois de juillet, on était un peu en reprise aujourd'hui, et je pense qu'on a fait un super boulot. Manu était très très content de tous les gars. On l'a vraiment bien placé, je l'ai lancé dans les derniers mètres, et il va chercher une superbe deuxième place. Je pense qu'il est vraiment à rien de la gagne, donc c'est super bien. On est content ce soir.
Ouais, d'ailleurs, Maël, on te voit dans les images. Toi aussi, tu es presque dans le top 10, le fameux top 11 de Thibaut Pinot. Tu termines 11e de cette première étape, tout en ayant tenté de t'échapper également dans le début d'étape, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est sûr. Bah, je pouvais pas prendre le départ sans essayer d'être à l'avant. Donc non, j'avais eu carte blanche pour essayer d'être devant. Je suis sorti un peu à contre-temps, et puis les trois coureurs de devant ont pas souhaité m'attendre, donc j'ai préféré me relever. Mais bah, c'était pas plus mal, parce que du coup j'ai vraiment bien servi dans le final pour Manu. Donc ça tombait bien. Et puis ouais, un petit top 11 pour moi, ça fait toujours plaisir.
Ça fait toujours plaisir. Vous le savez, Bistrot Vélo, c'est votre émission. On est en direct, vous posez vos questions. Vous êtes déjà très nombreux sur la page YouTube Eurosport. On salue nos deux jumeaux de la tête dans le guidon qui sont présents. Soft Dexter, Thibaut Chambre. Maël, ne te retourne pas, le peloton est encore derrière toi. Et oui, parce que la profession baroudeur, bah, c'est un petit peu notre thème du jour. On va le découvrir. Avant cela, on va voir ta fiche, Maël, pour les gens qui ne te connaissent pas. Début de carrière dans la formation Sojasun Espoir entre 2017 et 2020. Et puis, c'est arrivé dans l'équipe nantaise en 2021. Auparavant, il y avait une petite interlude à la rallye où tu avais été stagiaire l'année auparavant. Profession baroudeur, pourquoi Maël? Parce qu'à chaque fois qu'un amoureux de télé, de cyclisme, allume sa télévision, bah, quand tu es présent sur la course, généralement, tu es à l'offensive, tu es devant. D'où t'es venue cette envie d'aller t'échapper, de ne pas rester dans le peloton?
Bah, franchement, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'aime faire, mais je pense qu'avant tout, c'est des qualités qui sont en moi, qui font que c'est ce qui me convient le mieux sur une course. Donc c'est pour ça que j'aime ça. Et puis voilà, dans l'équipe, c'est super, parce que ça fait beaucoup de visibilité pour tous nos sponsors. Donc c'est bien d'être à l'avant. Et je sais que c'est sans doute pour moi la meilleure chance d'aller chercher un gros résultat, parce que je suis un coureur passe-partout, mais j'excelle pas vraiment dans un domaine. Et donc c'est dur de se distinguer actuellement dans le peloton, ouais, qui est devenu vraiment avec un niveau très très élevé, très homogène.
Ouais.
Et tout le monde est très spécialisé dans un domaine. Donc voilà, pour se distinguer, il a fallu que je trouve autre chose. Et moi, j'aime aller de l'avant. C'est un tempérament que j'ai. Ouais, j'ai vraiment le tempérament d'un attaquant. Et ça me plaît d'être à l'avant, d'ouvrir la route.
Et ça te permet de te faire remarquer effectivement ce que tu le disais, puis de montrer le sponsor. Hein. Tu tiens les comptes, Maël, pour savoir un petit peu au niveau, peut-être kilométrage, au niveau des échappées. Qu'est-ce que tu nous as fait sur l'année 2023?
Et bah ouais, du coup je tiens les comptes, parce que Pierre Roland m'avait mis au défi de les tenir. Il m'avait dit que ce serait drôle d'avoir un suivi. Du coup j'ai tout repris sur mes données d'entraînement depuis le début de saison, enfin mes données de course en fait.
Ouais.
Donc avec mes valeurs de watts, etc., je voyais exactement où j'avais attaqué et où j'avais été repris. Et donc j'en suis arrivé à un total de 1350 km à l'avant cette année, donc déjà un peu plus que l'année dernière.
C'est déjà pas mal. On les a vus, des échappées, notamment sur le Grand Prix La Marseillaise, hein, première course de l'année. Tout de suite, on te voit à l'avant sur la route des Crêtes. Il y a eu des échappées sur les 4 jours de Dunkerque, les boucles de la Mayenne, le Trobroléon. Est-ce que tu as un regret parmi toutes ces échappées? Je sais qu'il y en a certaines qui sont vraiment pas passées loin.
Ouais, bah la Mayenne, c'est vrai que Ça a été un peu frustrant parce que je me fais reprendre à 500 mètres de l'arrivée. J'étais plus pour la gagne parce qu'il y avait le coureur de Movistar, Lascano, qui nous avait décroché. Mais bon, il y avait moyen de faire un beau résultat. Se faire reprendre à 500 mètres après 180 bornes devant, ça faisait mal au cœur. Après, non, il n'y a pas de regret parce que je pense que être offensif, c'est ce qui me va le mieux. Et c'est, voilà, je suis au naturel quand je suis à l'avant. Et voilà, des courses comme le Trobroléon ou le Grand Prix de Denain que j'adore sur les pavés, sur les chemins, ça m'a permis d'avoir un coup d'avance et d'anticiper un peu les débats et d'être après avec les meilleurs sur les chemins. Donc, non, pas de regret. Après, je sais que, ouais, il y a des personnes de mon entourage qui me disent souvent que si je savais attendre un peu plus, que je jouais la gagne avec les meilleurs, je pourrais sans doute aller faire des plus beaux résultats. Mais voilà. Faut aussi penser que voilà, je suis qu'en Conti et là le but c'était vraiment de progresser, de prendre la caisse et je pense qu'il n'y avait rien de mieux qu'aller dans les échappées pour ça.
Oui, on parlera hein, de cette formation nantaise, de la Conti, on parlera un petit peu de l'évolution dans quelques instants. Avant cela, tu sais, nous, on aime faire des cadeaux dans Bistro Vélo et il y avait quelqu'un qui avait envie de te poser une petite question. Il a une jolie coupe de cheveux, il s'appelle Yael Joalan, il est d'ailleurs avec toi sur les routes du Tour de l'Ain. Je te propose de découvrir sa question et puis tu lui réponds juste derrière.
Salut Maël, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, j'ai une petite question pour toi. Je voudrais que tu me dises dans l'équipe quel est le plus gros mangeur?
Alors,
Là, c'est la question piège, ça. Pas facile, pas facile. Je pense quand même qu'on a un sacré loustic avec Robin, notre Canadien. Je pense qu'on sera unanime dans l'équipe. Franchement, il est assez impressionnant, surtout avec le physique qu'il a. Je me demande où ça peut aller.
Yael, il faut lui faire quelque chose peut-être dans l'équipe avec ses cheveux. J'ai l'impression qu'il sait pas trop quoi faire. Il a essayé la coupe mulet. C'est le grimpeur de l'équipe. Hein. Normalement, demain et après-demain, on va essayer peut-être de travailler un petit peu pour lui.
Non, mais je pense qu'il cherche un peu là en ce moment, donc faut le laisser chercher avec son coiffeur. Et non, en vrai, il s'est laissé pousser les cheveux, mais je pense qu'il faisait un peu chaud en ce moment. Donc sous le casque, il a dit j'arrête les conneries et puis je rase tout ça. Non, non, mais on l'a un peu chambré là-dessus, mais c'est sympa, c'est ce qui fait cette super ambiance qu'on a dans l'équipe.
D'ailleurs, je sais pas où il est peut-être dans la chambre derrière, mais en tout cas, il est présent sur le live YouTube, il te regarde et il est même d'ailleurs en train un petit peu de se moquer de toi. J'ai vu une question passer tout à l'heure, Maël. Comment on prend une échappée? Comment on essaie de s'immiscer dans une échappée? Tu as essayé ce matin, malheureusement, enfin en début d'après-midi à contretemps sur la première étape du Tour de l'Ain. Comment on le sent ce moment où il faut sortir du peloton?
Déjà, je pense que faut être ultra motivé et faut y avoir pensé avant, c'est-à-dire je sais qu'un sprinter va énormément étudier la fin d'étape, les derniers virages, etc. Bah, moi, je vais vraiment regarder les premiers kilomètres, les premiers virages, les premiers ronds-points, si on passe une ville, si c'est des grands bouts droits, comment elle vend. Et puis, être motivé parce que faut aller s'échauffer. Et je pense que je suis l'un des rares coureurs à aller m'échauffer quand je veux être dans l'échappée. Il y en a beaucoup qui descendent du bus un peu au dernier moment. Et ce que je peux comprendre, hein, quand on a du fictif et que tu veux pas être dans l'échappée, il n'y a pas forcément raison à aller s'échauffer 20 minutes avant. Mais voilà, déjà s'échauffer, faire monter le cœur parce que les premiers efforts sont vraiment intenses. Et puis après, c'est beaucoup de placement, je pense. Faut réussir à bien frotter parce que faut réussir à bien frotter et puis être intelligemment placé, voir quelle équipe ont envie d'aller de l'avant et se focaliser sur celle-là, pas forcément sur celle qu'on a envie de contrôler. Enfin, faut réussir à faire le tri de ce que je vois autour de moi. Donc, faut être très alerte, je pense, très concentré. Et puis après, faut avoir les jambes, évidemment, mais c'est vraiment ouais, une grosse question, je pense, de mental et de placement avant tout.
Ouais, question de mental, de placement, avoir envie également de se faire mal. On parlait tout à l'heure dans le menu du jour de Soka Pissaladia. On l'a vu, tu es natif de Saint-Nazaire, Maël. Tu es l'enfant des Pays de la Loire, mais tu as préféré aller habiter au soleil de la Côte d'Azur, un petit peu comme beaucoup de cyclistes. Explique-nous pourquoi tu as fait ce choix de quitter la mère patrie.
Ouais, bah, ça fait déjà un petit bout de temps que j'étais encore amateur à Sojasun quand je suis parti vivre à Nice. Bah, en fait, ma copine a fait ses études à Nice et quand elle a été prise à Nice, ça a été assez une évidence pour nous parce que j'ai la moitié de mon sang qui est breton, puis l'autre moitié qui vient de Provence. Donc j'ai toute ma famille en Provence, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Donc c'était assez évident quand. Voilà, quand Alice, ma copine, m'a dit voilà, je peux faire mes études à Nice, voilà, on s'est regardé, on a tous les deux eu un grand sourire, et puis ça s'est fait comme ça. Et depuis, bah, Depuis, on est bien où on est et on n'est pas prêt de bouger, je pense.
Tu parlais d'une formation continentale. On le rappelle, c'est le troisième échelon du cyclisme international. Il y a les Pro Teams, la World Team juste en dessus. Et donc, ces formations continentales comme l'équipe de Nice Métropole Côte d'Azur, par exemple. Qu'est-ce que le fait de côtoyer tous ces grands coureurs sur la Côte d'Azur, il y en a beaucoup, hein, des World Tours, de rouler avec eux tout au long de l'année, est-ce que tu vois ton métier de la même façon que les coureurs qui évoluent un ou deux échelons au-dessus de toi? Vous faites le même métier?
Ouais, je pense qu'on fait le même métier. Je pense qu'on s'entraîne autant. On a les mêmes charges d'entraînement. Voilà. Après, il y a une différence quand même avec les coureurs qui vont sur les grands tours. J'en parlais justement aujourd'hui beaucoup avec Nance Peters, qui me parlait du tour. Et voilà, bah, de ce qu'il dit, c'est quand même encore autre chose. Et ça donne envie d'aller voir ça. Mais je pense qu'il faut y être préparé aussi. Et c'est bien justement d'en discuter avec des coureurs comme ça qui ont un niveau juste exceptionnel et qui ont souffert sur le Tour de France, quoi. Donc, c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec lui notamment. Et ouais, ça, je pense que on fait le même métier à l'entraînement et dans la vie de tous les jours, et qu'il y a encore une différence sur les courses quand même.
Il y a la saison des transferts qui va s'ouvrir dès demain, le 1er août. Est-ce que tu as eu des touches? Est-ce que tu aurais des envies peut-être de gravir les échelons? 25 ans, on en parlait souvent, 25 ans dans le cyclisme, ça peut paraître des fois vieux quand on regarde des coureurs de 18-19 ans qui passent déjà professionnels, même si toi, bah, tu es tout jeune dans le vélo.
Ouais, c'est sûr. Bah, j'ai eu des touches. Ouais, je vais pas mentir. Après, l'envie d'aller au-dessus, évidemment, un grand oui, hein. J'ai envie de voir ce que je peux donner avec encore plus de moyens, que ce soit des moyens matériels, des moyens humains. Voilà, on a encore des choses à faire pour progresser. Et ouais, j'ai clairement envie d'aller voir au-dessus, de découvrir d'autres courses et surtout d'aller courir aussi dans d'autres pays. Je sais que nous, on court essentiellement en
Oui.
France. J'ai envie de m'essayer bah, en course en Belgique. Voilà, des courses peut-être plus débridées, des courses en Italie. Enfin, il y a énormément de terrains sur lesquels j'ai envie d'aller m'essayer. Donc ouais, j'aimerais bien passer au-dessus. Après ça, voilà, ça dépend pas forcément que de moi, ça dépend de moi, mais pas que. Donc voilà, je suis très très bien où je suis et je suis ultra reconnaissant envers l'équipe qui m'a donné sa chance. Donc voilà, je suis très heureux en tant que coureur cycliste dans la vie de tous les jours. Mais évidemment, j'ai une partie de moi qui me dit bah ouais, je serais frustré de jamais aller voir au-dessus un jour ou l'autre, quoi. Après, c'est sûr que bah, 25 ans, maintenant, ça fait presque vieux. Mais je fais partie de ces coureurs de cette génération où, bah, quand on était junior, ce n'était pas normal de passer pro après les juniors.
Oui.
J'avais fait une très belle saison en junior, j'avais gagné des courses UCI. Je sais qu'avec le palmarès que j'avais en junior, je serais peut-être passé pro à l'heure actuelle. Là, bah, ça ne le faisait pas parce que ce n'était pas dans les mœurs. Et j'ai dû attendre 4 ou 5 ans avant de passer pro. J'ai dû faire mes armes chez les amateurs. Et ouais, j'ai pas de regrets là-dessus parce que ça m'a permis aussi de faire des études, de finir mes études, voilà, d'avoir une vie plus normale entre guillemets que de passer pro à 18 ans en n'étant pas forcément très mature. Donc je le regrette pas. Après, j'espère que l'avenir sera positif pour moi et que ouais, je regretterai vraiment pas de pas être passé pro plus tôt.
On suivra ça avec attention. Parler de cette formation nantaise, c'est la formation qui monte un petit peu en continental. 4 victoires cette saison, dont 3 pour la petite pépite, Noah Isidore. Raconte-nous un petit peu l'ambiance dans cette équipe, une petite structure à taille humaine, 14-15 coureurs. Comment tu évolues, toi, au milieu de cette formation?
Bah franchement, j'adore parce qu'on est plus une famille qu'une équipe. On est tous heureux de venir sur les courses et on s'entend, je pense, tous très bien. Là, on avait tous des grands sourires hier. C'était la reprise. Bah, ça nous avait manqué, quoi, de ces jours de veille de course, d'aller manger ensemble, d'aller rouler ensemble, c'est de discuter de tout et rien. Et ouais, c'est une grande famille. Je pense entre le staff, on se connaît vraiment tous très bien. Et je pense qu'on est même plus des amis que des coéquipiers. Et ouais, ça fait des moments de vie et de partage qui sont vraiment, vraiment géniaux. Ouais. En plus, quand il y a des résultats comme aujourd'hui, là, c'est que du positif, quoi.
Avec Anthony Ravard, hein, qui fait du gros travail, comme tout le staff, équipe à taille humaine, presque des amis, une famille, et ça se ressent sur le vélo, de par les résultats, on en parlait tout à l'heure. Cette formation nantaise, tu as encore un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024, elle est en train de se développer, j'imagine que même si toi, t'aimerais peut-être aller voir un peu plus haut, on compte sur toi parce que les échappées de Maël Guégan, c'est une très très belle promotion, une très très belle pub pour cette équipe.
Ouais, c'est sûr. Bah oui, je sais que que les DS et Anthony ont toujours le sourire quand ils me voient à l'avant, et encore plus tous les bénévoles qui œuvrent et qui ont œuvré pour le club quand ils allument leur télé, qui me voient devant. Je sais que je donne des sourires à des gens et ça fait plaisir. Donc, je me fais pas de soucis pour mon avenir dans l'équipe. J'y suis très très bien et je pense que j'ai la confiance de mon manager et de mes DS et ça fait plaisir. On n'est pas mis sous pression au moins. Voilà, j'ai encore un contrat pour 2024. Donc non, c'est top. Et puis comme ouais, c'est vrai que l'équipe progresse, l'équipe évolue et ouais, on est tout jeune hein, dans le milieu et on a fait des erreurs l'an passé, c'est sûr. On en fait moins cette année et on en fera encore moins l'année prochaine parce qu'on devient professionnel sur vraiment plein de domaines et ouais, ça fait plaisir de voir l'évolution de l'équipe que j'ai connue en plus en amateur du coup.
On a des fans, on a beaucoup de questions sur le live YouTube d'Eurosport sur la page.fr. Il y a une petite fan ou un fan, Softrider, qui a récupéré un bidon de Maël Guégan et qui depuis te suit sur les réseaux sociaux. Bah voilà, t'as des fans supplémentaires, t'en auras
Ah,
peut-être
ça fait plaisir.
de nouveau. Après le bistrot vélo, on continue la tournée des questions. Il va y avoir un petit accent, on ne dira pas un accent du sud, mais il y a un accent. Il avait une question pour toi. Il est champion du Canada sur route et il s'entraîne souvent avec toi. Lui aussi habite dans le sud de la France. C'est un certain Nicolas Zukowski.
Salut Maël, tu m'amènes à quelle boulangerie pour notre prochaine Easy Ride?
La boulangerie, il y a une adresse, une nouvelle adresse.
Ah, moi j'adore chez Mamie Bakery à Tourrette-sur-Loup. C'est le spot au calme. J'y étais la semaine dernière encore avec Alice pour une sortie tous les deux. Donc, avec plaisir, Nick, on se fera une petite sortie tous les deux. Puis on ira manger une bonne part de flan. Ah, c'est le top ça.
C'est à Nicolas qui va nous faire la transition pour le Bistro News. Et oui, parce que la compagne de Nicolas Zukowski, c'est une certaine Simone Boillard, qui elle aussi est une cycliste professionnelle pour la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93. Elle a terminé le Tour de France hier à Pau. Le Tour de France, tu l'as suivi, le Tour de France femme, hein, j'entends Maëlle, tu l'as suivi.
J'ai pas loupé une étape, j'avoue. J'ai regardé toutes les étapes.
Mais est-ce que tu
J'ai
regardais sur Eurosport?
Ah bah évidemment, je vais
C'est
pas
bien.
dire le contraire.
Et alors,
Non,
qu'est-ce que
non,
tu en as
mais
pensé de ce Tour de France
non,
femme?
franchement, j'ai adoré parce que c'est super débridé. Il y a du suspense tous les jours. Il y a des échappées qui sont allées au bout. Il y a des échappées qui ont été reprises à 100 mètres de la ligne. J'en étais presque dégoûté alors que c'est pas moi qui étais sur le vélo. Non, franchement, j'ai adoré. Et puis bah, je suis vraiment Simone et j'avais vraiment envie de la voir évoluer sur ce tour. Donc je la cherchais dans le peloton et non, non, j'ai vraiment aimé regarder ce Tour de France. Et bah ouais, j'ai pas loupé d'étape, je crois. J'ai vraiment tout regardé. Celle où j'étais encore sur le vélo pour de longues sorties, je les ai regardées en différé. Non, je crois que j'ai été plus assidu que sur le Tour de France homme.
Est-ce qu'elle t'impressionne toutes ces championnes?
Ouais, parce que je pense que faut pas oublier qu'elles viennent de loin, je pense qu'elles ont eu énormément de préjugés et ça n'a pas été facile, je pense, pour elles. Donc, ouais, non, je trouve ça vraiment génial que le cyclisme féminin se développe à ce point et qu'on ait des belles courses comme ça, qu'il y ait du monde sur le bord des routes. Enfin, l'ambiance qu'il y avait dans le Tourmalet, même s'il y avait beaucoup de brouillard et qu'on ne voyait pas grand-chose, de ce que j'ai entendu dire, vraiment, il y avait du monde et franchement, elles méritent ça parce qu'elles font aussi mal que nous sur un vélo. Hein, elles font aussi mal, elles s'entraînent autant. Enfin, moi, je sais que je m'entraîne aussi beaucoup avec Simone. Enfin, faut pas croire, je l'attends pas quand je fais des exos et elle me fait très très mal aux jambes quand elle en fait. Donc non, elles ont vraiment, ouais, elles ont le même métier que nous et ça fait plaisir qu'elles puissent évoluer comme nous sur des grandes courses.
Le Tour de France femme qui s'est terminé à Pau avec la victoire de Demi Vollering devant Lotte Kopecky et Katarzyna Niewiadoma qui prend la troisième place, la polonaise. Dans le reste de l'actu cycliste, il y a un maillot de champion du monde qui a levé les bras encore une fois, qui a pris un nouveau béret, la Classica San Sebastian. Tu l'as suivi, tu as pu voir ce qui s'était passé ce samedi, Maël.
Un petit peu, je suis arrivé en train un peu tard, donc je suis allé rouler hier après-midi. Mais ouais, non, non, j'ai regardé et j'ai vu une belle démonstration. Lui, c'est toujours aussi impressionnant, toujours aussi beau à voir. En plus, avec le maillot de champion du monde, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose, hein. Ouais, c'est beau, il n'y a rien à dire, c'est très, très beau.
C'est quoi les meilleures routes d'entraînement? Le pays de Retz ou l'arrière-pays niçois? C'est Romain Orvehen qui te pose la question. Je pense que c'est un Breton qui veut savoir.
Ouais, c'est clair. Non, bah, j'aime beaucoup mes routes hein, dans le pays de Ré, mais quand même pour s'entraîner, pour performer, on est un peu mieux à Nice. Il y a un peu plus de dénivelé parce que j'en ai fait des sorties et des heures sur les routes du pays de Ré, mais je rentrais avec vraiment très très peu de dénivelé. Donc je roulais tout le temps vite dans le vent, dans le vent, dans le vent, et puis surtout le vent il vient tout le temps d'ouest, donc. Donc tu pars toujours vent de dos et puis tu rentres toujours vent de face.
Pas
Donc
cool. Pas cool.
non, pas cool, pas cool. Non, en vrai, j'adore y retourner. J'adore y aller, rouler avec les jeunes de mon club, de l'AC Brévinois, retrouver tous ceux avec qui j'ai pu évoluer toutes ces années. Mais voilà, une semaine ou deux, quoi, pas plus. Après, je suis bien monté mes cols à Nice.
J'ai vu une autre question sur le YouTube Eurosport. Il n'y a pas de question bête. Hein. C'était en plus, on a vu que tu as fait des études. Est-ce qu'on peut vivre du cyclisme quand on est dans une équipe continentale?
Ouais, bien sûr, on peut vivre du cyclisme. On a la chance en France d'avoir des statuts de sportif professionnel à même titre que les coureurs de Pro Team et World Team quand on est en continental. Donc ouais, on est bien coureur cycliste professionnel et on peut en vivre. Donc c'est bah, comme je dis souvent, hein, je fais le plus beau métier du monde. C'est ma passion et je vis de ça, donc c'est génial.
Le Yael Joalan, coéquipier, qui continue de nous poser des questions, mais ce n'est pas toujours des questions très pertinentes, donc on les relaiera pas,
Je veux même pas voir.
on veut même pas voir, effectivement. Autre question, j'en ai vu passer, vous n'hésitez pas, hein, vous le savez, vous êtes déjà très nombreux, c'est votre émission, vous posez vos questions à Maël Guégan, on a parlé de la Classica Saint-Sébastien. Oui, question que j'avais notée tout à l'heure. Quel est le coureur, toi, dans le peloton qui t'impressionne le plus, si on avait un que tu devais citer?
Van der Poel, sans hésiter, pour ce qu'il est capable de faire. Enfin, surtout l'état dans lequel il est capable de se mettre. Il va tellement loin dans la douleur, c'est assez exceptionnel, je trouve. Ce qu'il fait en cyclocross et sur route, et même en VTT, c'est assez dingue de se mettre aussi loin dans un état de souffrance. Et ouais, ça m'impressionne beaucoup. C'est un coureur que j'aime bien et que je suis souvent. Ouais, c'est lui que je citerai en premier. Ouais.
D'accord. Tu as pu jeter un œil sur le Tour de France homme avec ce duel hein, qui a passionné les foules, le Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Quel bilan, toi, tu tirais de ce Tour de France en tant qu'observateur?
Bah, j'ai bien aimé le tour. Ça a été quand même à beaucoup de suspense, je trouve. Après, c'est vrai qu'on a vraiment deux ogres, deux monstres. Et bah, ça peut paraître des fois un peu bizarre pour le grand public. Moi, je pense que c'est surtout deux mecs hors normes. Et voilà, il y en a comme ça tous les 20 ans ou tous les 15 ans, je ne sais pas. Et bah, ils font leur truc et ils jouent pas dans la même cour que les autres. Et c'est aussi beau à voir. Hein. Des fois, on s'habitue presque trop à les voir gagner,
Oui.
mais faut pas oublier que c'est énorme ce qu'ils font quand même. C'est énorme. Ils se mettent aussi dans des étapes impossibles. Et ouais, c'est beaucoup de respect pour tous ces coureurs qui sont capables de s'infliger ces efforts pendant 3 semaines. C'est assez impressionnant. Hein.
Avant de passer au questionnaire de Bistro Vélo, il y a Thibaut Chambre qui te demande, qui nous dit, Anthony Ravard voulait tester tes capacités au championnat de France sur le contre-la-montre. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? C'est vrai que tu as participé à l'épreuve chronométrée sur les derniers championnats de France à Cassel.
Ouais, c'est vraiment pas facile le contre-la-montre parce que c'est un effort qui me plaît plutôt, voilà, un concept que j'aime, mais c'est devenu vraiment une course à l'armement. Et bah, clairement, on n'a pas, quand t'es en Conti, t'as pas les moyens de suivre, t'as pas le matériel adapté, t'as pas les positions qui vont avec, les études. Et ouais, c'est presque un peu déprimant parce que tu sais que tu prends le départ pour être au-delà du top 20, au-delà du top 30. Mais c'était important de le faire, je pense, parce que déjà, c'est des efforts qui font progresser. Je l'avais déjà fait l'année dernière à Cholet. C'est des efforts qui font progresser. On va quand même loin dans l'effort et dans la souffrance. Et en plus, bah, on parle aussi de visibilité. Bah, ça permet de représenter l'équipe, d'avoir un coureur au départ. C'est toujours important. Je pense que c'est aussi du respect pour nos sponsors et pour ceux qui mettent de l'argent et qui investissent dans l'équipe. C'était d'un accord commun avec Anthony de mettre quelqu'un au départ du chrono. Ça a été moi le désigné parce que c'est des qualités de rouleur quand même que j'apprécie. Après, bah clairement, voilà, j'avais pas le vélo chez moi à l'entraînement, donc je l'avais utilisé qu'une fois avant. C'était au contre-la-montre des 4 jours de Dunkerque. Donc voilà, quand tu fais une seule fois de vélo de chrono
Ouais,
avant les France, c'est compliqué, mais
c'est
voilà,
compliqué.
ouais, il n'y avait pas de grandes attentes. Le but, c'était de le faire, de se faire plaisir et de se faire mal, quoi.
Question sur tes baroudes encore de l'Obsé. Quelle course a les plus beaux paysages pour prendre l'échappée? Pas sûr que tu aies le temps de tous les regarder, mais je sais que tu es un amoureux de la nature, donc il y en a certaines qui doivent te faire plus plaisir que d'autres. Je pense que sur le Trobroléon, tu as dû t'amuser cette année.
Ah ouais, Trobroléon, c'est sûr, c'est assez incroyable comme paysage. Ouais, c'est pas souvent découvert, par contre. Mais même sous les nuages, c'est beau. Non, c'est vrai que c'est beau. Les chemins, quand on rentre dans les chemins, qu'on voit les fermes au loin, C'est des paysages qui restent vachement ancrés en mémoire. Il y a des échappées où j'aurais du mal à les resituer, à revoir les routes sur lesquelles je suis passé. Et autant le Trobro, je pourrais dire exactement où j'ai attaqué, où on s'est fait reprendre. Enfin, ouais, c'est des souvenirs vachement ancrés. Et après, quand même, je dirais le Grand Prix de la Marseillaise, c'est quand même exceptionnel. Cette route des crêtes, c'est vraiment beau en haut. C'est une vue incroyable.
C'est pour ça que tu as
Et
voulu passer en tête.
c'est ça, j'y tenais à passer en tête là-haut parce que c'est beau. Tous les ans, on est content de reprendre parce que c'est la reprise et qu'on est tous des affamés et qu'on a envie de courir. Mais on est aussi content d'y aller la veille, de faire notre reco, de monter la route des crêtes, d'aller prendre notre photo là-haut. Donc, non, c'est des beaux souvenirs aussi sur le Grand Prix de la Marseillaise.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Maël, de l'évolution du cyclisme depuis quelques années? Là, tu parlais de la course à l'armement. C'est vrai qu'on parle énormément du matériel, d'innovation technologique. La nutrition poussée un petit peu à son para à son à, au taux le plus élevé. Hein, c'est vraiment quelque chose de très important. Le textile, les recherches qui sont faites, tous ces petits gains marginaux. Comment tu analyses ça, toi?
Dans un sens, c'est une bonne chose parce que ça fait évoluer les choses, ça fait développer énormément de bonnes choses. Et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, à titre personnel, ça me plaît pas plus que ça parce que ça augmente les écarts avec les équipes à petit budget et à gros budget. Ça augmente les écarts. Et puis, il y a aussi une grosse problématique qui, je pense, n'est pas encore assez prise en compte dans le vélo, même si on y vient. C'est quand même le développement durable et l'écologie. À un moment, on vit dans un monde où on parle énormément de ça et où quand même tout va mal, même si on essaie de fermer un peu les yeux sur des trucs. Il y a des incendies partout, il y a des espèces en voie d'extinction un peu partout dans le monde, il y a de la pollution, voilà, on ne sait plus quoi en faire. Et quand on voit qu'on développe des vélos de contre-la-montre qui vont être utilisés une seule saison parce que ensuite ils sont même pas revendables, c'est des vélos qui sont faits au code sur mesure pour tel ou tel coureur. Bah, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on va y venir, mais il va falloir un peu de temps encore. Mais je pense qu'il va falloir aussi mettre des règles parce que c'est pas normal d'avoir toujours plus de bus, toujours plus de camions, toujours plus de fronts, toujours plus de coureurs, toujours plus de vélos. Enfin, à un moment, on va un peu à l'encontre de ce qu'il faudrait aller. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Et ouais, c'est un sujet très vaste et très, très compliqué parce qu'en même temps, c'est aussi bien qu'il y ait une évolution dans le vélo parce que s'il n'y avait pas d'évolution, il n'y aurait pas de sponsors, il n'y aurait pas d'argent, enfin, on n'en vivrait pas. Donc il faut aussi qu'il y ait une évolution, mais je pense qu'elle doit être un peu plus raisonnée. Et ouais, sortir des vélos tous les ans, sortir des nouveaux groupes tous les ans avec des nouveaux changements de vitesse, des cassettes toujours plus grandes. Donc ça nous oblige à changer le groupe entier. Et celui de l'année d'avant, on en fait quoi? Enfin, c'est pas facile et je pense qu'il y a encore du boulot là-dessus. Ouais, il y a du boulot là-dessus et je sais que c'est très compliqué.
L'écologie, forcément très très importante. Ça me fait penser qu'un jour j'ai quand même vu un petit papier tomber de ta poche arrière. Tu l'as pas ramassé, tu roulais un peu trop vite. Faudra en reparler. Allez, on va. Avant de passer au questionnaire de Bistro Vélo, il y avait quelqu'un qui avait une question supplémentaire pour toi. Elle s'appelle Alice. Je te laisse découvrir.
Salut Maëlle, alors moi j'avais une petite question. Je voulais savoir si tu avais déjà couru un marathon de 42 km, parce que comme tu continues à courir beaucoup, même en saison, je voulais savoir si tu l'avais déjà fait.
La réponse?
C'est une sacrée chipie celle-là. Parce que. Non, parce qu'elle a fait le marathon de Paris l'année dernière. Et depuis, j'en entends parler à peu près tous les jours. Et elle me dit, ah, mais toi, t'as jamais fait de marathon, t'as jamais couru 42 km, tu sais pas ce que c'est. Donc voilà, je me fais chambrer parce que moi, j'ai jamais fait de marathon et qu'elle en a fait un. Hein. Donc alors, c'est son
Il faut
petit
que t'en
jeu à
fasses
elle.
un.
Et ouais, je lui ai dit, du coup, cet hiver, t'inquiète pas, je vais partir un jour courir. Je vais rentrer 3 ou 4 heures après, j'aurai fait mes 42 km, tu pourras plus m'embêter. Mais non, c'est son petit jeu à elle parce que. Ouais, voilà, ça me fait rire.
Elle nous avait fait
Mais...
deux questions parce qu'il y en
Ouais.
avait une autre qui tournait autour de la nourriture, mais on l'a compris, tu es un épicurien, la nourriture c'est un petit peu, c'est ton dada, t'aimes ça, t'aimes bien manger, t'aimes cuisiner également, donc on avait choisi cette question qui différencie un petit peu. Le questionnaire de Bistro Vélo, Maël, c'est pour toi, qui est ton meilleur pote dans le vélo? Elle est
Wow,
dure, hein,
c'est
celle-là.
dur ça.
Ouais.
Ah ouais, c'est super dur.
Tu peux te fâcher avec tout le monde, mais il faut en donner un.
Ouais, c'est super dur. Je pense que je vais dire un coureur qui n'est pas dans le peloton pro, comme ça, ce sera plus facile. Je me mets personne à dos. Je dirais Alexis Roche, c'est un mec que j'ai rencontré à Nice. qui fait du gravel, qui court en gravel et avec qui je m'entraîne énormément. Et surtout, je me suis entraîné dès le début avec lui et on a fait énormément de sorties tous les deux. On s'entend super bien. C'est voilà, lui me pousse dans mes limites et puis j'essaie de le pousser aussi dans ses limites quand il prépare des courses gravel. Donc voilà, je sais qu'avec Alexis, ça se passe vraiment bien. Ouais.
Et c'est le petit frère, hein, de Nicolas Roche pour resituer. On mange très très bien chez la famille Roche. Qui était ton idole de jeunesse, Maël? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'impressionnait, que ça soit un cycliste ou alors un sportif, un chanteur peut-être? Tu avais des posters dans ta chambre?
Ouais, Philippe Gilbert, j'ai eu ma porte de chambre qui était placardée de ces posters que je trouvais dans Vélo Magazine et puis d'articles que je découpais quand il avait été champion du monde, puis les courses qu'il gagnait avec le maillot. Ouais, j'avais tous les posters de Philippe et être présent dans le peloton pro pour sa dernière année pro l'an dernier, c'était vraiment quelque chose. Enfin, je me rappelle avoir eu des frissons quand j'ai passé la ligne aux 4 jours de Dunkerque quand il avait remporté l'étape et je passe la ligne dans les derniers du peloton et le speaker avait eu le temps de dire victoire de Philippe Gilbert. Et là, je me dis waouh, c'est quelque chose. Enfin, c'est un mec qui était en poster dans ma chambre quand j'étais petit. Et là, je cours avec lui et gagne encore. C'est incroyable.
Et puis, il y a moyen de faire des sorties vélo avec lui parce qu'il n'est pas très très loin de chez toi.
Ouais,
Faudra que tu
c'est
organises
vrai.
ça rapidement. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale, Maël?
Ouais, je me souviens de mes premiers coups de pédale. Si mon père regarde, il va pas être content, mais je crois bien que c'est avec ma mère que je les ai faits, hein, parce que je devais pas rouler assez vite pour lui. Et du coup, il avait dit non, je vais pas rouler avec toi. Donc j'allais rouler avec ma mère. Je me rappelle le long de la Loire en VTT au départ. Voilà, c'était les petites sorties, les petites balades. Et puis j'ai vite commencé avec mon papa. Il m'emmenait à Saint-Brévin dans la cour de l'école. On faisait les jeux d'adresse avec la Sébrévinois. Et puis j'avoue que j'aimais ça, mais j'ai pas été très très assidu. J'avais qu'une envie, c'était aller rouler sur la route. Donc souvent, j'essayais d'avoir une petite dérogation pour aller rouler avec les plus grands et aller tout de suite sur la route. C'est ce que j'aimais. Voilà, il m'a énormément accompagné sur le vélo depuis mes plus jeunes années jusqu'à encore aujourd'hui. Et dès que je rentre à la maison, je vais rouler avec lui.
Quel est ton meilleur souvenir dans le vélo?
Wow. Franchement, c'est dur. C'est dur. Il y a des choses qui m'ont marqué. Des choses qui m'ont marqué en junior quand je gagne aux 3 jours d'Axel une course UCI. C'était la toute première course de l'histoire de la U19, qui est actuellement AG2R, U19 Citroën Team, la réserve de AG2R.
Ils ont une
Ouais, c'est
question
la.
pour toi d'ailleurs, on l'écoutera
Ah,
après.
bah voilà, bah, c'était la toute première course que je faisais sous leur maillot. Ça faisait 2 ans ou 3 ans que j'étais dans l'équipe déjà et ils avaient eu seulement l'autorisation de faire des courses. Et lever les bras avec ce maillot, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Je sais que ma maman m'avait encadré la photo et me l'avait offert. Je l'ai encore dans mon garage et ouais, c'était un moment très très fort ça.
A contrario, ton pire souvenir sur le vélo?
Paris-Roubaix, parce que c'est une course qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment galéré. Je suis allé en espoir en n'étant pas préparé, pas assez bien préparé, et j'étais surtout tombé une dizaine de jours avant. Je m'étais fait une entorse acromio-claviculaire. J'ai souffert énormément, j'ai pas réussi à finir et j'étais dépité. Je pense que c'est peut-être pas mon pire souvenir, mais en tout cas la course sur laquelle j'ai le plus de regrets parce que ouais, Paris-Roubaix Espoir, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis l'année suivante, il y a eu le Covid, elle a été annulée et puis je ne l'ai plus jamais refait. Donc je l'avais fait en Espoir 1, je l'avais fini heureusement. Et puis en Espoir 2, j'étais arrivé un peu diminué. Et voilà, c'est des choses qui restent un peu dures. Ouais.
La course que tu rêverais de gagner, peut-être un Paris-Roubaix, s'il y en avait une à choisir, celle que tu où tu pourrais lever les bras. Ça peut être une étape également sur un grand tour, hein.
Ouais, clairement, soit un Paris-Roubaix, soit un championnat, parce qu'un maillot, pour moi, ça n'a pas de prix. Et moi, j'ai toujours dit, je sais qu'il n'y a pas énormément de coureurs qui pensent comme moi, mais moi, j'ai toujours dit que ce qui me fait vraiment vibrer, parce que je pense que je suis un amoureux du sport avant d'être un amoureux du vélo, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est quelque chose que je trouve juste incroyable comme concept, c'est tous ces pays, tous ces athlètes qui se réunissent pour une compétition. Et ouais, là, en plus qu'ils soient en France. Ouais, je trouve ça juste dingue et peut-être que gagner les JO, ce serait la plus belle récompense pour moi en tant qu'amoureux du sport.
Allez, on va prendre une dernière question. Elle nous vient de la formation AG2R Citroën U19 qui nous suivent sur le live YouTube Eurosport. Quel serait le métier que tu aimerais faire après ta carrière? Eux, ils ont une petite idée.
Ils veulent m'embaucher, c'est ça?
Je sais pas.
Non, moi j'ai fait des études dans l'écologie et dans la science, en biodiversité. C'est un milieu que j'aime énormément, donc peut-être que je me pencherai là-dedans, mais je pense que plus ça va, plus ma véritable passion, c'est quand même la cuisine. Et si ma carrière devait s'arrêter, je pense que je reviendrai aux bases et je passerai un CAP pâtissier, un CAP boulanger. Et je crois que c'est un petit rêve qu'on a en plus à deux avec Alice. Et je pense qu'un jour, on finira par ouvrir notre boulangerie ou notre café, mais je pense qu'on va y venir.
C'est un beau projet, ça m'intéresse de
Ouais.
venir goûter les viennoiseries, moi j'aime ça. Merci beaucoup Maël d'avoir participé au questionnaire de Bistro Vélo. On se quitte pas tout de suite, je te propose de regarder le programme TV parce que ça te concerne, avec dès demain la suite du Tour de l'Ain et ce jusqu'à mercredi, deuxième et troisième étape sur le papier réservé aux grimpeurs. Rendez-vous à 14h sur Eurosport 2. Et puis à partir de jeudi, oui, le grand rendez-vous, c'est parti pour un peu plus de 10 jours. Le début des championnats du monde de Glasgow sur Eurosport. Il y aura de la piste, il y aura du VTT, il y aura de la route. Il y en aura pour tous les goûts. Merci beaucoup, Maël Guégan, d'avoir été l'invité de Bistro Vélo. On te souhaite bon courage pour les deux étapes qui te restent à faire sur le Tour de l'Ain. Et puis, on te laisse le mot de la fin.
Bah, merci à tous, hein. Merci. Et puis continuez de suivre cette belle émission qui nous fait tant parler du vélo. On apprend beaucoup de choses, je trouve. Donc c'est très sympa de voir un peu l'intimité des coureurs comme ça. Donc
Merci.
merci beaucoup, merci d'avoir suivi ça.
Merci à toi et nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau rendez-vous Bistro Vélo à 18h.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.